Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Silence en joueur, Juan Cario, bonjour. Au programme cette semaine, enfin, petit programme cette semaine. Pourquoi vous le saurez dans les secondes qui viennent. Au programme cette semaine, on va parler de Apex Legends et de Wargroove. Et puis le reste du programme avec la chronique de Jérémy Kletskin, évidemment sur les jeux de société, le com des com tout petit, hein, voilà, comme il y a quelques semaines aussi. Et je commence en accueillant un de mes chroniqueurs favoris. Mais lequel? Suspense. Corentin Benoît Gonin, décroissant. Bonjour Corentin.
Salut Erwan.
Et oui, parce que alors de mémoire, je ne sais pas si c'est arrivé déjà ou alors ça fait très 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 longtemps, mais il y a eu un arrêt maladie. Oui. Deux dernières secondes, Marius Chapuis était censé être avec nous autour de cette table, mais il est malade. Voilà. Et Patrick Helio s'était excusé, tout ça. Enfin, je vais vous raconter toute la vie. Est-ce qu'on raconte les coulisses? De silence, on joue.
Patrick qui a apporté un mot de ses parents, donc tout va bien.
Voilà, tout va bien pour Patrick. Ne vous inquiétez pas, il sera là dès la semaine prochaine. Donc du coup, est-ce qu'on allait pour autant ne pas enregistrer cette émission? Non, parce que on a cette volonté en nous d'être là, d'être présent toutes les semaines.
Parce que j'habite à 3 heures du studio et que j'étais déjà en route.
On va pas abandonner pour si peu. Donc voilà. Par contre, on a forcément allégé le programme pour voilà, parce que
ça aurait été bête de pas se battre avec Patrick sur Life is Strange quand même.
Voilà, donc on a gardé Life is Strange 2 épisode 2 pour la semaine prochaine. Et puis j'en profite pour le com des com, qu'est-ce qu'on a en com des com? Il y avait un com des com sur YouTube de Livaz qui disait, tiens, pour la semaine dernière déjà, hein, il disait, tiens, pas de Kingdom Hearts 3?
Oui.
Alors, Kingdom Hearts 3. Est-ce qu'on va en parler? Suspense. Je pense qu'on en parlera la semaine
Patrick
prochaine.
Patrick aura joué, je crois.
Je crois que. Alors, il faut savoir. Alors, bon, au risque de choquer les âmes les plus sensibles, c'est vrai que me battre avec une clé en compagnie de Donald
une
et Dingo.
Une clépée.
En compagnie de Donald et Dingo dans le pays de la Reine des Neiges, ou de Ralph, ou de je ne sais trop quoi.
Ou de Hercule, parce qu'il y a toujours le monde de Hercule.
Ou de Hercule. C'est. Chelou. C'est chelou. On va pas se mentir.
Le vrai problème de Kingdom Hearts, c'est que le lore est tellement immense qu'il faut vraiment avoir suivi le film, quoi, pour vraiment en profiter.
Peut-être que d'ici la semaine prochaine, en plus de Patrick, on trouvera un spécialiste. Hein, pourquoi pas? Parce que ça se trouve, il y a des gens, ils ont des thèses, ils ont des bacs plus 5 en Kingdom Hearts.
Moi, j'en connais. Faut juste les faire venir.
C'est ça.
Ces gens qui vivent terrés, hein. C'est un peu des reclus de la société, ces gens-là. Mais bref, longue histoire.
Non. Alors, Kingdom Hearts 3, avec du retard. Mais vous, voilà, ce sera sans doute la semaine prochaine. Ce sera sans doute un peu de patience. Et promis, j'ai évidemment été volontairement caricatural dans ma présentation. On évitera de l'être, forcément, la semaine prochaine. Ça, c'est pour le com des com de la semaine dernière. Mais on va aussi commencer par des petites news. Et la semaine, les jours qui viennent de s'écouler ont été particulièrement denses.
Alors, on commence par quoi? Le sympa ou le pas sympa?
Le pas sympa.
Allez, alors Activision qui a fait sa petite réunion investisseur il n'y a pas longtemps et qui avait laissé entendre déjà plusieurs jours avant que ça allait dégraisser au niveau de la masse salariale de l'entreprise, qui est une grosse entreprise.
Alors que?
Attends, je vais faire dans l'ordre. Ils ont donc annoncé, parce que tu vois, il y a un effet dramatique. Ils ont annoncé, alors que? Tu vois, c'est mieux. Ouais, ah oui. Donc, ils ont quand même annoncé pendant ce Investors Call, hein, la réunion des investisseurs, 8% de suppression d'emplois. Et 8% de suppression d'emplois, quand on s'appelle Activision, ça représente un certain nombre de gens. Donc c'est quand même 770 personnes qui risquent d'être concernées dans un avenir assez proche pour des suppressions de postes, quoi. Alors, que dit Activision ? Activision, ils disent, alors nous, en fait, on a envie de renforcer nos jeux de long terme, donc nos ce qu'on appelle des fois dans le milieu les serviciels, en fait. Donc, en l'occurrence, ces serviciels à succès comme Call of Duty, Candy Crush, Overwatch, Warcraft, Hearthstone, tous ces jeux-là. Et c'est vrai que, mine de rien, hier, on a un certain paquet. Et a quand même annoncé aussi pendant cette réunion investisseurs des gros revenus sur ces uniquement générés par des microtransactions et ce genre de choses. Donc c'est vrai que c'est un enjeu économique très important pour Activision. Donc ils veulent renforcer ça. Et ils veulent aussi réduire les équipes qui servent moins. Et le principal argument qui a été annoncé, c'est la séparation avec Bungie très récente, qui fait que, par exemple, l'équipe qui était entièrement consacrée au bon fonctionnement entre Bungie et Activision, eh ben, n'a plus vraiment lieu d'être à l'heure actuelle. Donc, on dégraisse. Pourtant, et c'est ça qui a choqué énormément de monde, à très juste titre, parce que c'est quand même un petit peu dégueulasse, ils ont également annoncé, en tout cas Bobby Kotick était très content d'annoncer, une année record d'un point de vue du bénéfice de l'entreprise, avec 2 milliards de dollars de bénéfices, 2 milliards de dollars de bénéfices, 2 milliards de dollars de bénéfices, c'est incroyable, ils n'ont jamais fait autant de leur histoire, mais c'était décevant, d'après les chefs d'Activision. C'était décevant, ils s'attendaient à plus, ils n'ont pas atteint leur potentiel plein, leur full potential, comme ils ont dit.
On a le droit d'être vulgaire ou pas ?
Vas-y, je t'en prie.
Non, mais je me retiens, je dis juste qu'on a la potentialité hein, aussi, nous, d'être très très vulgaire par rapport à ce genre de news. Il faut savoir que c'est... Enfin, moi, c'est complètement aberrant. Et au niveau de la symbolique aussi, c'est pas, des licenciements... Déjà dans ces conditions financières d'entreprise, etc., qui ne sont pas justifiées, mais il faut bien voir aussi le cadre dans lequel ils ont été annoncés. C'est-à-dire, on est sur du licenciement d'investisseurs, c'est-à-dire on est sur du licenciement pour faire plaise aux investisseurs. On est vraiment sur ce que cette société fait de pire dans la financiarisation du contrat social, on va dire. C'est un truc de dingue. Et on est dans un secteur qui est le jeu vidéo, c'est-à-dire que tous les gens, les 8% de salariés là qui se retrouvent sur le carreau, il y a des tweets hyper touchants de notamment une community manageuse de World of Warcraft comme ça qui dit qu'elle avait le boulot de ses rêves quoi. Elle avait le boulot de ses rêves et du jour au lendemain, elle apprend que bah non, c'est fini. Pourquoi ? Pour faire plaisir et pas parce qu'elle avait plus de taf, pas parce que son taf était devenu inutile. Non, pour faire plaisir à des investisseurs. Et en plus, le truc, c'est combien de savoir... C'est aberrant. Une société de jeux vidéo aujourd'hui, elle n'a pas à... Non seulement elle n'a pas à licencier parce que d'une part, c'est choquant, mais d'autre part, tous les gens qui licencient ont un savoir-faire. Je veux dire, tu parlais évidemment des gens qui étaient en charge des relations avec Bungie, mais ces gens-là, ils ont un savoir-faire de dingue qui n'est pas lié forcément ni à Destiny ni à Bungie. Et la raison d'être d'une entreprise, aussi, c'est pas forcément que faire plaisir à ses investisseurs, c'est trouver des tâches, des boulots, des trucs comme ça c'est à sûr. Des gens qui sont doués, qui ont les capacités de le.
Mais dis-moi, ouais, est-ce que tu penses que Bobby Kotick, il lit Libération
Non, pas du tout.
C'est que c'est un état d'esprit qui est... Voilà. Je suis d'accord avec toi, je suis 4000 fois d'accord avec toi. C'est une réflexion de grands patrons, de grandes sociétés américaines de surcroît. Alors, je vais faire un peu l'avocat du diable, parce qu'ils savaient que ça allait faire des remous. Ils ont quand même annoncé qu'ils allaient réembaucher une partie des gens quand l'activité allait reprendre sur certains travaux.
Quand ils seront à leur troisième milliard de bénéfices,
voilà,
c'est ça.
Voilà, exactement.
En réembauche.
Et ils ont dit qu'ils allaient pas laisser partir sans rien tous ces gens. Bon, voilà, mais ça reste ultra scandaleux. Et je tenais juste à préciser cet exemple qui a été également ressorti là ces derniers jours par les réseaux sociaux d'Iwata, qui à l'époque de la Wii U, où ça galérait grave au niveau des revenus au niveau de Nintendo, avait divisé par deux son salaire pour, je cite, ne pas avoir à licencier deux gens. Alors évidemment, il n'y a pas que ça qui allait jouer, mais symboliquement c'était l'inverse,
oui,
quoi.
Mais parce que et puis quand on voit des boîtes comme Ubisoft qui embauchent, qui cherchent à créer des studios et tout ça, parce que le jeu vidéo n'est pas forcément un secteur hyper hyper en danger, si tu veux. C'est pas, on n'est pas en récession dans le jeu vidéo. Donc il y a du boulot, il y a du boulot. Et quand t'es une boîte comme Activision, je suis désolé, y a les gens qui sont, tu peux leur donner du taf. Il y a pas.
C'est une logique d'investisseur. Si Activision avait, Activision avait une vocation, on va dire. Plus grande dans la société, voilà, il se dirait bon, on a une activité, si on de la maintenir en créant de nouveaux projets, de nouveaux studios, de nouveaux jeux.
Ils veulent.
Mais il y a
ils sont dans le camp du mal.
Il y a une logique.
Ils sont dans le camp du mal. Je suis désolé, je suis hyper manichéen. Ouais. J'ai envie d'être hyper manichéen.
Tu peux.
Il y a hyper. C'est ils sont dans le camp du mal.
C'est une logique investisseur. Elle est ultra critiquable, c'est clair. Voilà. Et bon, mais parlons d'autre chose, un peu plus réjouissant.
Justement, t'avais j'ai senti
presque
une sorte de transition.
Presque
comme ça,
transition. Mais, oui. Parce que voilà, il y a eu une Nintendo Direct mercredi soir, donc voilà, c'était un petit peu la fête de tous les petits Nintendos. Hein. Traditionnellement, c'est plutôt en janvier. Là, ils ont pris un peu de temps, mais ça valait le coup d'attendre puisqu'il était quand même assez cool ce Nintendo Direct. Il y avait pas mal d'annonces. Yes. Déjà, ils ont ouvert avec quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, qui est Mario Maker 2.
Donc je suis trop content. Je suis trop content.
Je m'attendais à un portage un peu classique comme on a eu pour Splatoon, faut pas se voiler la face, Mario Kart et compagnie. Là, ça a l'air d'être quand même une grosse mise à jour de Mario Maker. Ils ont rajouté un jeu, en l'occurrence une adaptation 2D de Super Mario 3D World sur Wii U, avec notamment les transformations en chat, les tuyaux transparents, tout ça. Il y a plein de nouveaux ennemis, il y a les fourmis, il y a les boum boum, et oui, je parle en connaisseur du bestiaire de Mario, et j'ai repris mon accent du sud, tu remarques.
Donc, j'ai rien dit.
Il a l'air assez dingue. Il y a des choses vraiment qui sont cool. Par exemple, on a remarqué qu'il y avait des niveaux verticaux, ça qu'on n'avait pas avant, ou en tout cas, il fallait bidouiller, c'était insupportable. On peut choisir la direction générale du scrolling. C'est-à-dire qu'on peut vraiment faire des scrolling comme dans Mario 3, qui montent, qui descendent et tout.
Et il n'y avait pas ça dans. Non. Même dans le. Moi, j'ai testé surtout celui sur 3DS.
Ouais.
Et il n'y avait pas ça sur Wii U non plus. On pouvait pas faire du scrolling. Ah oui.
En fait, on pouvait choisir un scrolling.
Ça va avec la verticalité, en fait.
Ça va avec la verticalité, et même sur cette verticalité là on peut dézoomer sur son niveau. Oh, ça va faire du bien, ça, parce qu'avant on avait grosso modo la vue de la moitié du niveau en verticalité, et là on va pouvoir dézoomer, c'est quand même super. Il y a plein de petits détails, évidemment tout le monde a décortiqué le trailer pour voir tout ce qu'il y avait. Il y a toute une ergonomie qui a été repensée avec les sticks, du coup, puisque il y a le tactile est plus compliqué, parce qu'avant on faisait son niveau sur l'écran de télé et on gérait ses outils sur la tablette, la mablette de Nintendo. Là c'est moins possible, donc ils ont tout repensé. Ça a l'air ultra cool, j'ai hâte. Et il y a plein d'indices qui laissent penser que le jeu sera multi aussi. Ça, c'est cool. C'est-à-dire qu'on va.
Multijoueur,
bah, jusqu'à 4 joueurs.
Ah oui, donc tu pourras, oui, d'accord, tu pourras créer un niveau pour 4 joueurs.
Bah, tu pourras surtout jouer à 4 joueurs à tes niveaux, quoi. Donc ça, ça c'est vraiment cool, typiquement. En fait, il y a Luigi, mais il y a aussi des petits artworks qu'on voit de Toadette et de Toad. Donc, a priori, ça sent bon le multijoueur. Il y a pas de, c'est pas encore confirmé.
Et Carotin.
Oui.
Et Carotin.
Il n'y a pas Carotin.
Oh,
je suis désolé.
Il n'y a pas Carotin.
Bah, j'en sais rien. Enfin, il n'est pas montré. Il y aura peut-être Carotin. Ça se trouve, il y aura plein de persos, puisque dans la version Wii U, il y avait plein de personnages en 8 bits. Donc, pourquoi pas. En tout cas, ça sort en juin. Donc, je sais ce que je fais cet été à titre personnel. Ils ont annoncé aussi Box Boy et Box Girl. Alors, c'était un petit puzzle platformer tout sympa qui est sorti sur 3DS. Il y a eu plusieurs itérations d'ailleurs. Voilà, je voulais juste le signaler. Je vais peut-être y jouer là. Du coup, il sort le 26 avril sur Switch. De toute façon, tout était sur Switch. À noter d'ailleurs qu'ils n'ont pas abordé la 3DS. Hein, ça sent la fin pour la 3DS. Bon, Karwan est en train de s'étrangler. Vas-y, tout ça.
Merci pour le commentaire.
Alors, il y avait un gros morceau, c'était le Fire Emblem Three Houses, qui était très attendu. On avait peur d'ailleurs.
Là, quand tu fais le bilan, il y a tellement de choses.
Il y a beaucoup de choses.
Il y a tellement de choses. Je pensais que déjà quand j'avais oublié Fire Emblem tellement il y a encore des trucs.
Il avait été plus ou moins annoncé, mais c'était juste working title. Il y avait pas grand chose. Enfin, je crois qu'on connaissait le titre, on n'avait pas vu grand chose. Mais il faut savoir que le Nintendo Direct de début d'année souvent est assez chargé, assez rempli. C'est là où Smash Bros, je crois, a été annoncé l'année dernière. Donc il me semble, je suis plus très sûr. Quoi qu'il en soit, Fire Emblem Three Houses. Donc là, on est sur une mise en place d'école. C'est-à-dire que c'est trois royaumes, mais il y a une école au centre. Et grosso modo, on joue les tuteurs, ou en tout cas les instructeurs de jeunes recrues qui vont apprendre à se battre. Et on va les envoyer au front, on va devoir les entraîner, choisir leur spécialisation. Ça a l'air intéressant. Je suis moins fan du chara-design. J'ai l'impression qu'ils ont changé de chara-designer par rapport aux anciens Fire Emblem. Ça a l'air un peu moins porté sur les romances un peu nazes, même si moi je trouvais ça un peu rigolo. Et un peu plus porté sur la stratégie. Donc peut-être que les fans des épisodes GameCube cubes vont être un peu plus contents ou hypés que ceux des épisodes 3DS qui étaient très portés quand même sur faire des couples au sein de ton armée, ce qui était cool, moi j'aime bien à titre personnel, mais c'est vrai qu'il y avait une demande un peu plus de sérieux de la part des de la base hardcore de Fire Emblem. En tout cas, ça a été repoussé, ça devait sortir en printemps je crois, ça sortira finalement le 26 juillet, un été chargé hein, je pense oui. Pour les fans de Nintendo.
Donc en fait, t'as le mois de juin pour Super Mario Maker et après ça. Ouais.
Alors la surprise Tetris 99 ouais. Qui est sorti hier soir du coup, qui a été annoncé sorti hier soir. C'est pour les gens qui ont l'abonnement Nintendo Online, donc ceux qui jouent en ligne. Et alors c'est le Battle Royale du Tetris, j'ai pas d'autre chose à dire. Donc tu lances ta partie de Tetris, sauf qu'il y a 98 mecs en face de toi qui jouent aussi, qui t'envoient des saloperies dès qu'ils font un Tetris ou
Mais ça envoie à tout le monde. Non, ça envoie pas
non.
à tout le monde.
Non, tu choisis avec en fait t'as un système à la base de t'as tes deux sticks, donc t'as le stick de droit je crois que c'est le petit droit. Enfin, t'as un des deux sticks qui sert grosso modo à déplacer un curseur. T'as tous les jeux de Tetris en fait en minuscule autour de toi, et tu peux choisir qui tu cibles quand tu vas faire un Tetris par exemple pour envoyer des lignes aux gens. Et mais sinon, il y a des stratégies prédéfinies du style n'envoie des lignes qu'à ceux qui m'envoient des lignes, ou alors envoie des lignes qu'à ceux qui sont bientôt sur le point de mourir. Ça, c'est les pires. Envoie des lignes à ceux qui ont le plus de chevrons. Alors, j'ai pas compris ce que c'est que les chevrons, mais je crois que c'est quand tu fais des combos que t'envoies beaucoup d'attaques. T'as un rang qui augmente et donc tu peux attaquer le mec qui est en train de flinguer tout le monde là parce qu'il a l'air dangereux, ou alors t'as aléatoire, évidemment c'est possible. C'est intéressant, c'est bon, c'est compris dans le forfait, on va dire, du Nintendo Online. J'ai essayé hier, j'ai fait un top 2, j'étais très content. Vivement le top 1, et c'est plus stressant qu'un Tetris normal, mais je crois que j'ai un problème avec les gens en ligne, avec les gens je ne connais pas, il faudrait que je fasse.
Mais c'est quand même une très bonne surprise. Moi, j'ai vu dès ce matin, le jeudi matin où on enregistre, des captures d'écran, des gens trop contents, c'est une bonne idée, quoi. Enfin, après, il y avait le revival de Tetris avec
Tetris Effect.
Voilà, le Tetris Effect en réalité virtuelle.
Mizuguchi.
C'est Mizuguchi. Et c'est quand même la valeur sûre.
Du coup, alors il est très épuré pour l'instant, il n'y a rien. Franchement, il n'y a que dalle dans le jeu. Mais il y a des phrases dans les paramètres ou dans les statistiques qui laissent entendre all modes. Alors qu'il n'y a qu'un mode pour l'instant, donc a priori ils vont rajouter des trucs. Il y a que musique aussi, c'est insupportable.
En même temps, moi je me souviens de l'époque, enfin c'était il y a très très longtemps, mais les premières parties de Tetris à deux, quand on commençait à pouvoir s'envoyer des lignes, c'était quand même très très intense. Donc je trouve que c'est.
En tout cas, si vous êtes abonné, n'hésitez pas à aller le chercher. Ouais. Il est dans l'eShop. Alors j'ai noté Hellblade aussi, qui arrive sur Switch. C'est très étonnant ça, le Hellblade sur Switch. Déjà, je pensais pas que la Switch était capable de faire tourner Hellblade, mais apparemment si. Et cool, parce que Hellblade c'est un très bon jeu. L'exclu PS4 aura pas duré très longtemps.
C'est clair.
Il sort au printemps. Astral Chain, alors ça, c'était la surprise. C'est un nouveau Platinum.
Mais oui. Ça se voit. Ça se voit.
Ça se voyait dès le départ. Mais j'hésitais. C'est un Platinum ou c'est un Monolith Software? Je savais pas trop encore, tu vois. Mais c'est un Platinum. Donc, comme quoi, la relation entre Platinum et Nintendo continue d'être au beau fixe, hein. Il y a Camilla qui est derrière. Il y a aussi le game designer derrière Nier Automata que moi, j'avais à titre personnel adoré. Même s'il y avait ça pêchait un peu au niveau de game design, mais dans l'ensemble, le jeu était, moi, j'avais vraiment adoré Nier Automata. Alors, ça se passe dans un monde, cyberpunk un peu, avec des extraterrestres qui viennent envahir une ville futuriste. J'ai l'impression qu'on joue des flics du futur.
Oui, avec plein d'effets un peu chelou, mais avec ce gameplay très Platinum, très grosse patate, c'est très skill aussi a priori.
Ça avait l'air dynamique en tout cas, tout le monde était très content de voir ça. Alors par contre, ils ont quand même précisé, tous les fans de Bayonetta 3, je sais qu'on l'a annoncé, ils travaillent dessus, il y a pas de problème. Ouais. On voulait vous rassurer là-dessus. Et comme je crois que Platinum a aussi d'autres projets à côté, il y a plein de gens qui s'inquiètent, mais Platinum n'est pas assez gros pour gérer autant de projets, donc c'est un peu inquiétant. On va voir comment ça se décante. En tout cas, ça sort le 30 août, donc ça doit bientôt être fini quand même cette histoire. La série sur le gâteau, parce que à titre personnel.
Non, mais c'est vrai que déjà il faut se rendre compte qu'il y avait déjà toutes ces annonces là.
J'en ai sauté plein. Des portages, des petits jeux, genre il y a Yoshi.
Il y avait beaucoup de gens qui espéraient Animal Crossing.
Alors ça, c'est celui qui a manqué, Animal Crossing. Crossing, je sais pas où il est.
Il était pas là.
Il était pas là. Alors peut-être s'il sort à Noël, c'est normal, ils vont plutôt en parler au printemps ou à l'été. Mais ou à l'E3, peut-être que l'E3 sera consacré à Animal Crossing. Mais même c'est pas vraiment un jeu de 3. Mais en tout cas, voilà, dernier jour, on s'attendait à Animal Crossing et non. Là alors là, sorti de nulle part, même si moi je l'attends depuis des années, j'attendais qu'il le fasse. Link's Awakening, le remake. Ah Erwan, c'est mon deuxième Zelda préféré derrière Majora's Mask. Il faut savoir ce que Majora's Mask était Ocarina of Time, Link's Awakening l'était pour A Link to the Past, très clairement. C'est-à-dire que on maîtrise une recette et on rajoute une petite couche un petit peu d'ambiance, de scénario, d'esthétique un petit peu particulière. C'est un Zelda un petit peu bizarre, hein, parce que par exemple, il y a des ennemis de Mario dedans. Vous voyez, c'est un Zelda qui est un peu étonnant. Mais en tout cas, il est refait là, donc dans un style. Oh, ce style. Non mais il est beau. On se croirait dans un petit diorama, on joue avec des petits jouets.
C'est
très très mignon, c'est vraiment adorable. Je trouve qu'ils ont réussi à renouveler ce lieu commun de on va faire un jeu mais en laine, ou alors on va faire un jeu mais en carton. Là, ils refont un jeu mais avec, je sais pas, des petites billes en céramique ou des trucs comme ça.
En termes de texture, c'est assez foufou,
c'est
quand même.
C'est trop mignon.
C'est un peu comme si c'était un jeu d'il y a longtemps mais en HD poli, récuré, enfin tu vois, un peu super travaillé dans les détails, en fait. Et puis c'est très beau en termes de couleurs aussi.
Ça marche bien en vue de trois quarts, en fait. Ouais. Donc c'est vraiment intéressant. Je suis enthousiaste.
IP, comme on dit. Non, c'est moi.
Enthousiaste.
Ah oui, c'est moi.
On va se faire péta, attention. Mais en tout cas, voilà, ça sort en 2019. On n'a pas plus de précision que ça. Et je l'attends avec une impatience non dissimulée. Il était chargé, hein, ce Nintendo Direct.
C'était ouf.
Bah moi je suis très content.
C'était bien.
Moi je suis.
Non mais franchement c'était bien. Il y a des choses prometteuses. Après moi je t'avoue qu'en termes il y a le Super Mario Maker. Ouais. En fait ça me fait plaisir qu'il conserve ça. C'est-à-dire que j'avais cette crainte que on a fait Super Mario Maker un peu comme, tu vois, ça me rappelle WarioWare Do It Yourself, tu vois, qui était un truc absolument génial et qui est resté un peu dans les limbes, il est pas ressorti, c'était un one shot. Alors on sait qu'il y avait eu cette version Wii U, la version 3DS pour Super Mario Maker, mais
oui, bien sûr.
Mais j'avais peur que ça reste à cette génération-là. Et là, le fait que ça revienne, je suis vraiment super ravi.
De toute façon, moi, c'était une bonne nouvelle, Mario Maker à l'époque, parce que le simple fait qu'il y ait un Mario Maker empêchait... Enfin, ça aurait été compliqué pour Nintendo de ressortir un nouveau Mario 2D chiant, pardon, mais je le dis. Enfin, pour moi, New Super Mario Bros. U n'est pas incroyable, il est un peu feignant ce jeu-là quand même. Ça les empêche, puisque, regardez, on peut faire tous les niveaux qu'on veut avec ça. Donc, par contre, le fait que Mario Maker devienne une série, ça c'est sympa. Et maintenant, il nous faudrait quelque chose, Erwan. Il nous faudrait un Zelda Maker, pareil, en 2D, avec les différents Zelda, avec Link's Awakening, A Link Between Worlds, Zelda 1 et Zelda 3.
Tu crois un jour?
J'adorerais. En tout cas, c'est faisable. Hein. Ça serait super.
Mais non, mais parce que, alors moi, pour être un petit peu de my life, mais par exemple, mon fils qui a 6 ans, il surkiffe Super Mario Maker sur la 3DS, parce que voilà, lui, quand il a commencé à jouer à Yoshi Woolly World et tout ça, il a commencé à dessiner des niveaux sur des feuilles. J'ai des paquets de feuilles chez moi.
Level designer en devenir.
Et quand je lui ai mis ce Super Mario Maker 3DS dans les mains, il était comme un dingue. Et alors après, il fait des trucs, genre random. Et après, tiens, papa, essaye d'arriver au bout. Sympa.
Vaut mieux être bon.
Non, mais là, tu m'as mis trois Bowser qui balancent un mur de flammes. Je ne peux pas passer. Ah non, mais si, essaye.
Voilà. Il l'a validé? Non.
Non, non.
Il a planqué une dev d'or. Vérifie s'il n'a pas planqué une dev d'or.
Je ne sais pas. Mais en tout cas, ouais, c'est une excellente nouvelle. Super Nintendo Direct. Et on attend. Et en fait aussi, c'est toujours hyper enthousiaste d'avoir autant de contenu, même si la Switch, on a l'impression qu'elle vit en mode quasiment indé, en fait. Elle vit par elle-même avec les productions indé qui arrivent, avec
les portages
dont on va parler, hein. On va parler de Wargroove tout à l'heure, c'en est un exemple parmi d'autres, mais c'est le fait que Nintendo arrive et alimente aussi le truc.
J'ai eu cette réflexion en me disant pourquoi Microsoft et Sony n'arrivent pas à faire des directs comme ça. C'est aussi parce que Nintendo, mine de rien, c'est un développeur immense qui a beaucoup de studios et qui est capable quand même sur une année de sortir un nombre de productions maison immense. Donc en fait, à eux tout seuls, ils pouvaient se permettre de faire des directs. Et c'est aussi pour ça que, je pense, dans les moments difficiles, ils s'en sortent et qu'ils arrivent à faire des million sellers même quand leur console se vend pas du tout, parce que justement, ils ont une pléthore de studios et que de temps en temps, quand même, il faut bien qu'il y ait un succès là-dedans, quoi.
On va dire que c'est le camp du bien. J'aime bien.
Pour l'instant, parce qu'il y a des jeux.
Si dans son jeu spécial manichéen,
il y a bien un jour où ils vont faire des choses pas bien. Ils ont parlé aussi du taux de femmes il y a pas longtemps au sein des studios de développement et tout. C'était très intéressant. Je vous recommande d'aller voir les threads de Oscar Le Maire sur la question. Mais apparemment, il communiquait plus dessus depuis 2012. J'imagine depuis une forme de crise chez Nintendo. Mais là, apparemment, ils ont l'air de vouloir remettre en avant un petit peu le nombre de femmes qu'ils ont au sein de leur studio et notamment dans leur licence où ils ont le plus de femmes, Animal Crossing, qui est d'ailleurs réalisé en grande partie par une femme à la tête qui est qui est un petit peu la réalisatrice principale, quoi.
Cool. Eh bien, après cette longue introduction, il est temps de commencer avec la surprise. Enfin, on peut appeler ça comme on veut, mais ça reste une énorme surprise.
Ah oui.
Respawn, Electronic Arts, qui sortent un truc de nulle part. Est-ce que c'est un Titanfall? Pas du tout. Enfin, pas du tout. On en parlera. C'est un Battle Royale. Alors, ils sont à la mode. Ils ont suivi la mode, mais est-ce qu'ils n'ont pas finalement devancé la mode suivante? C'est ce dont on va parler. On va parler de Apex Legends. Death is inevitable. It's calling you. Tell Death I said hello. So that clears things up. This is mine. Yours? If it wasn't for me, you'd still be laying down on the job. Did your weapon malfunction? Or did you? Il y a tellement de choses à dire. Apex Legends, quand on a dit voilà Electronic Arts, Respawn, Free to Play, Battle Royale, on a l'impression qu'on a tout dit. Oui, ils ont fait ils ont suivi la mode. C'est ils débarquent avec un truc comme tout le monde, un Fortnite bis pour gratter, essayer de récolter un petit peu de miettes de l'énorme gâteau du Battle Royale Free to Play. C'est peut-être un peu plus que ça.
C'est complètement plus que ça, quoi. Ouais. C'est-à-dire que le jeu avait été en effet dévoilé à la presse quelques jours avant l'annonce surprise et le secret n'a pas été éventé pour le coup. Et c'est vrai que le 4 février, quand le jeu est sorti, personne ne s'attendait à ça. On savait que Respawn travaillait sur un gros projet, ils n'avaient pas dit quoi. Tout le monde s'attendait à un Titanfall 3, on se disait, bon, quand même, Titanfall 2 a eu au moins un succès critique sur sa campagne solo, qui était quand même plutôt cool. On avait parlé ici, mais j'avais souvenir quand même que c'était plutôt sympa, même si c'était pas non plus une révolution.
La campagne solo qui n'était pas. Mais c'était bien. Enfin, il y avait une vraie campagne solo, contrairement à Titanfall 1, déjà.
Oui, c'est clair. Bon, après, Titanfall 1 réinventait des mécaniques. De déplacement, notamment sur un genre qui était quand même très codifié à l'époque du FPS moderne, voire futuriste. Donc c'était intéressant aussi. Et là, j'ai l'impression que Respawn, ils sont arrivés avec comme volonté aussi de faire pareil, mais avec le genre pourtant beaucoup plus jeune du Battle Royale. Ouais. Donc on va reprendre les choses depuis le début. Donc c'est un Battle Royale à la première personne. Et pour l'instant, en tout cas, en escouade de 3 uniquement. On est obligé de jouer en équipe. Ce qui ne me plaît pas, car je suis pas, j'aime pas les gens.
C'est ça. Tu n'es pas bon.
J'aime pas les gens parce que je pense que je complexe beaucoup sur mon niveau de skill et j'ai peur de gêner les gens et ça me stresse. Et notamment à PlayerUnknown, je joue beaucoup mieux, soit avec des amis que je connais, soit avec, soit tout seul.
Ouais.
Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me faisait peur sur Apex Legends à la base. Mais c'est vrai que de ce que j'avais lu, et puis je m'en suis vite rendu compte dès que j'ai lancé le jeu, c'est que tout, et en lançant le tutoriel, tout est fait pour que le jeu soit jouable à 3, y compris avec Vladimir au fin fond de la Sibérie et sa connexion. Un peu naze. qui n'a pas de micro, bien sûr. Et ça, c'est une bonne chose, parce que en fait, Respawn a pris ça en compte et a tout designé autour de cette notion de coopération. Donc, pour vous donner un exemple, on commence le tutoriel, donc on nous apprend à nous déplacer, on vous dit, c'est un peu comme dans Titanfall, on peut faire des glissades sur le sol, très rapidement, on vous apprend à jeter une grenade, à tirer à la flingue, puis à un moment donné, on se dit, ça y est, je sais jouer. Non, attends, bouge pas, parce qu'on va te montrer la roulette maintenant.
Ouais.
Alors, qu'est-ce que c'est la roulette? La roulette, alors moi, je joue au PC, donc j'imagine que ça doit être une gâchette sur les consoles. Mais la roulette sert à communiquer sans parler ou sans taper dans le chat. et ça marche incroyablement bien. C'est vachement bien designé, c'est-à-dire que votre roulette en fait va vous servir à indiquer s'il y a des ennemis, s'il y a des munitions, s'il vous manque des munitions, s'il y a une arme, vous pouvez signaler une arme, vous pouvez dire « Oui, cette arme m'intéresse, toi qui as signalé une arme ». Ça permet de dire « Quelqu'un est passé par là », ça permet de dire « On devrait aller par là après ». Ça permet de dire plein de choses, quoi. Ça permet vraiment de communiquer sans avoir à parler, ce qui rend la chose assez universelle. C'est-à-dire que sans micro, sans parler la même langue avec les mecs avec qui vous êtes, vous allez pouvoir discuter, mettre en place des stratégies.
C'est une sorte d'immode tactique, en fait.
Ouais, c'est ça, c'est des immodes tactiques. Alors, ça a peut-être déjà existé dans d'autres jeux, je ne dis pas, mais là, en tout cas, c'est déjà bien fait, bien adapté au BR, en tout cas à 3. Et si tu fais pas ça, mais t'es mort dans le jeu. Mais t'es mort. Parce que en fait, dès que on en est au point où dès que tu vois quelqu'un ou si quelqu'un te voit, le premier réflexe à avoir n'est pas de lui tirer dessus, mais vraiment de le signaler à tes potes. Et ça, c'est super important pour que
ça change beaucoup de choses en termes de rythme, en termes de même de prise en compte du truc, quoi. C'est
il vaut mieux le signaler à tes potes histoire de vous regrouper et de le prendre correctement. Le mec qui est isolé par exemple ou qu'on voit, d'autant qu'il y a on est vraiment sur un mélange entre ce que propose un Battle Royale classique type Fortnite ou PlayerUnknown, mais il y a aussi pas mal d'éléments inclus de par exemple d'Overwatch, enfin d'Overwatch ou n'importe quel
les classes
voilà les classes notamment de jeux en arène, de shooter en arène tel Overwatch ou Team Fortress. Donc on a 8 classes à choisir, il y en a 2 qui sont bloquées qu'il faut acheter free to play, mais du coup
sont débloquables en jeu. Hein.
Ils sont débloquables en jeu, mais alors...
Dizaines d'heures, je crois.
Donc avec mon skill, je pourrais les débloquer. Mais oui, sinon c'est 20 balles. Hein, si vous voulez les débloquer avec de l'argent, on peut les débloquer avec de l'argent. Et 20 balles pour un jeu pareil, ça me semble pas déconnant. Mais après, voilà, il faut être au courant. C'est un free-to-play avec des mécaniques de free-to-play. Mais voilà, il y a des classes qui sont indiquées avec des petits symboles. Donc il y en a qui sont plutôt portées sur l'attaque, d'autres sur la défense, d'autres sur le soutien, d'autres avec des mécaniques un peu cheloues, notamment topographiques. Et ces classes-là, en fait, je trouve, arrivent à avoir même des interconnexions avec le système de communication. Par exemple, il y a pas mal de personnages qui sont capables de déterminer qu'il y a des ennemis pas loin sans les avoir vus. Il y a un personnage notamment il y a une voix qui lui dit il y a des ennemis, parce qu'elle est un peu, elle entend des voix, il y a une voix qui lui dit là tu t'approches, il y a des ennemis pas loin. Sois au courant, il y a des ennemis pas loin. Il y en a un autre, il a une capacité qui avec un cooldown qui s'active peut-être toutes les 30 secondes et il peut voir les traces de pas d'un ennemi qui est passé par là il y a pas longtemps. Tu vois,
c'est
et donc
bien.
Une fois qu'une personne sait ça, bah il place son petit, il place sa petite balise et il dit bah quelqu'un est passé par là et tout le monde est au courant. Et c'est voilà, juste ça, c'est bien pensé. Il y a aussi comment dire des mécaniques très qu'on voit pas forcément, et j'ai dû aller voir des vidéos genre de Polygon qui avait fait des explications. Tu vas dans ton inventaire et si par exemple tu n'as pas de sac, donc tu as un slot qui est indiqué pour ton sac et là tu as pas de sac. Et si tu veux, et ça c'est du génie, tu peux faire clic roulette sur l'endroit où il n'y a pas de sac, où il n'y a pas de casque, ou bien il n'y a pas d'armure, et ton personnage va dire automatiquement « j'ai pas de casque, voilà, j'ai pas d'armure ». Et quelqu'un va tomber sur une armure en fouillant, en cherchant dans les maisons, il va avoir une armure, et il va faire « là, il y a une armure ». Et après, toi, tu vas faire ton clic roulette sur l'icône de « là, il y a une armure » pour dire « ok, je prends l'armure ». C'est génial.
Non, mais c'est bien.
C'est génial. Ou alors, j'ai pas de balle légère. Alors tu cliques sur, alors tu vas sur ton arme et sur ton arme il y a une icône munition et tu vas faire ton clic roulette. Il me faut des balles légères. Il y a quelqu'un qui arrive et qui te drop des balles légères par terre. Tu ramasses les balles. Le jeu sait que c'était les balles de ton pote. Il te propose une QTE pour lui dire merci. Tu vois, c'est tout est pensé pour.
Et donc on est. En fait, ce qui est réjouissant là-dedans, c'est que non seulement c'est des gens qui ont joué à PUBG, qui ont joué à Fortnite, qui ont un peu compris cette logique et tout ça, et qui ont fait un Battle Royale deuxième génération. C'est-à-dire que on n'est pas dans le DLC, on n'est pas dans le polish, c'est-à-dire qu'ils ont leur vraie identité graphique. Enfin, je veux dire, on n'est pas exactement sur du cartoon, c'est quand même plus avancé, j'ai l'impression que Fortnite.
C'est pas trop ma cam, mais sincèrement, ça me repousse pas non plus. On est sur du cracra, hein, très clairement, du futur cracra, mais les personnages sont aimables, je trouve. Oui. Enfin, tu vois, ils sont de bonne humeur. Ils sont
c'est coloré. En fait, le truc, c'est un peu coloré à la Fortnite, tout en étant
un peu sérieux,
un peu plus réaliste dans le design, avec ces trucs de classe et ces trucs de legends, comme ça, parce qu'en fait, ça aussi, c'est une particularité, c'est que joue un archétype, donc avec son caractère, ouais. avec sa voix, avec son truc. Donc on n'est pas sur du profil lambda.
Et ça c'est très poussé, parce qu'en fait on se croirait dans Hunger Games, en fait, dans les films Hunger Games, vous savez, avec ses grands visages.
On se croirait dans un Battle Royale.
Mais je parle sur l'aspect personnification, ouais, des gens, ouais, qui,
oui,
jouent,
oui,
en fait.
Bien sûr, bien sûr.
C'est-à-dire on voit les personnages, on peut gagner des bannières évidemment dans, ouais, ces objets de customisation qu'on peut récupérer dans des pochettes surprises. Vous avez vu, j'ai pas dit loot box. Et du coup, ouais. non mais et du coup, voilà, vous pouvez récupérer des bannières de votre personnage qui se retourne de manière dramatique, avec, tu vois. Et ça, c'est très rigolo parce que c'est vraiment poussé à fond. C'est-à-dire qu'au début, donc on lance la partie, donc on voit son équipe qui est lancée. Et en fait, on voit ceux qui ont mis le mieux joué dans la partie précédente, qui sont les champions. Et on voit leur équipe, et pareil, très classe, avec, ouais, des musiques, avec des trompettes, comme ça, genre, et ben eux, c'est les champions. Si vous les tuez, vous avez un bonus d'XP supplémentaire.
Oh.
Tu vois, et ils s'appellent les kill leaders, je crois. C'est le, voilà, enfin, et donc on peut les choper, et si vous les tuez, bah, c'est un peu les cibles à abattre de la partie. Vous chopez un bonus d'XP qui viendront augmenter votre niveau, qui permettront de choper des fameuses loot box. Et du coup, tout ça est très poussé, notamment, il y a plein de bonnes idées. On va essayer d'en sortir quelques-unes. Mais par exemple, il y a les finish, enfin, les exécutions. Donc si un personnage est à terre et que vous voulez le finir, vous pouvez le finir à la main et ça va lancer pour l'autre joueur une cinématique d'exécution. Donc qui est dépendant du personnage. Et ça c'est super chouette parce qu'en fonction du personnage, c'est rigolo, genre l'infirmière, elle fait chut, tout va bien se passer, elle te met une seringue dans le cou. Voilà, t'as la petite soldat qui arrive et qui te tire une balle dans la tête, genre salut, pomme, tu vois, genre c'est, mais ça c'est poussé, ça rend la chose très rigolote. Et avec toute la personnalisation, ça ajoute un peu à ce côté héros Legends, parce que, ouais, Apex Legends, voilà, c'est un peu un jeu dans l'univers. Est-ce qu'on est dans l'univers de Titanfall d'ailleurs, on l'a pas précisé, oui, mais c'est dans le lore, c'est du Titanfall tout ça.
Sans les grands robots. Voilà. Pour l'instant.
Et alors, j'aimerais quand même évoquer, peut-être pour finir, quelques bonnes idées comme ça qui enrichissent le Battle
Royale.
Juste
un, ouais, point avant, et une précision, et quelque chose qui est à noter et qui est très limite surprenant à notre époque, c'est que c'est un jeu fini.
Oui.
C'est un point quand même qui est pas anodin. C'est
ça qui a
plu. Tu sors par surprise un jeu, il est fini. Moi, on est à la limite de l'événement quand même.
Ouais, mais chat et chaud d'écran, l'eau froide, t'as vu ce qu'on s'est tapé aussi avec PlayerUnknown à l'époque.
Oui,
c'était
mais
ça, hein.
Et ça veut dire que
nos attentes, elles ont baissé.
Non seulement le jeu, il est complet, il apporte des nouveautés, il apporte des nouvelles idées de game design, de gameplay, de trucs comme ça. Et en plus, il est fini. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'est pas ni en early access, ni en alpha, ni en bêta. Non, c'est V1.
Et il est bien opti, ouais, dans le sens où, bah, comme d'hab, moi, quand si ça tourne sur mon ordi, c'est qu'a priori c'est opti. Et il est pas moche pour autant. Je vois bien les petites optimisations. Je crois que c'est du source, ce qui est, il me semble, hein, je suis pas sûr à vérifier de ça. Mais en tout cas, le jeu tourne très bien, y compris sur ma config vieillissante. Et ça, c'est toujours appréciable, surtout dans un shooter où t'as besoin que ça tourne quand même de manière un petit peu régulière et sans qu'il y ait de ralentissement. Oui, alors je voulais quand même aborder parce que il y a plein de petites idées qui sont dispersées de ci de là et qui montrent qu'en fait ce Battle Royale là, ce Apex Legends, c'est vraiment le Battle Royale avec un peu de recul, avec de la réflexion sur qu'est-ce qui fonctionne pas dans les autres Battle Royale, qu'est-ce qui fonctionne et qu'on pourrait améliorer. Et typiquement, il y a le drop. Donc, vous savez, quand vous sortez de l'avion, il y a une personne qui décide de où vont les trois, ouais, de votre squad. Ça, c'est trop bien pensé. Parce que, en fait, vos...
Et pas seulement où vont, mais ils les guident jusqu'en bas. C'est-à-dire,
oui,
que toi, tu peux te décrocher pour ne pas suivre ton camarade, mais si tu ne fais rien, tu suis le leader.
C'est ça. Il y a le leader du groupe, mais tu peux t'en décrocher à tout moment. Ouais. Tu peux maintenir une touche pour te décrocher. Mais personne ne le fait, sauf dans les derniers mètres, histoire de séparer un peu dans la ville dans laquelle on va tomber, par exemple, pour choper trois maisons différentes plutôt que d'arriver tous dans le même bâtiment. En fait, tous les personnages, quand ils sont largués de l'avion, sont en chute libre et laissent une grande traînée de couleurs derrière eux, une couleur différente par trio. Ça aussi, c'est bien pensé.
Oui.
Parce que tu sais d'où ils viennent, où ils vont, ça c'est super. Et du coup, si votre Jump Master, je crois qu'ils appellent ça dans le jeu, voit que bah il y a deux autres groupes qui arrivent là où vous allez, et ben il peut choisir de hop, changer immédiatement de trajectoire pour aller ailleurs sans avoir à dire à tout le monde hop hop hop, on change de direction machin. Non, bah c'est le Jump Master qui décide, il surveille. Ah oui, non, là c'est un peu chargé, on va peut-être aller à droite. Et ça c'est cool, ça c'est bien pensé. Il y a des bonnes idées, par exemple le système de résurrection,
ouais,
des alliés est dingo. Ouais. Il est dingo. Donc, vous avez deux chances de ressusciter vos potes.
Yes.
Donc, évidemment, le classique, vous vous faites abattre, vous êtes à terre, et votre personnage va essayer de se rapprocher, va ramper jusqu'à un collègue qui va essayer de le ressusciter. Ça prend un peu de temps, et voilà. Et il y a une classe qui, évidemment, est spécialisée là-dedans et qui va faire apparaître un bouclier autour de lui et de celui qu'il essaie de ressusciter, avec un bonus de temps, tout ça. Voilà, c'est pour vous dire que les classes ont une importance quand même. C'est un pouvoir passif. Une fois que c'est... Mais voilà, vous n'avez pas réussi à vous faire ressusciter, vous êtes mort sur le champ de bataille, il y a votre caisse par terre, ah, c'est fini. Mais non, mon petit Erwan, c'est pas fini, parce que si un de tes potes arrive à ta caisse, il peut, en moins d'une minute, je crois, il faut une minute pour y arriver, sinon là, c'est vraiment mort, mais il peut récupérer ce que, votre bannière. Ouais. C'est vraiment la bannière dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec votre personnage qui regarde d'un air très charismatique la caméra. Et il peut récupérer votre bannière. Et une fois qu'il a votre bannière, il y a des points de respawn qui sont éparpillés un peu partout sur la carte. Et on peut aller là. Et alors pareil, ça prend du temps, il faut récupérer la carte, aller à ce point-là et charger une barre, voilà, il faut le mieux c'est d'avoir un collègue qui vous protège pendant ce temps-là, mais on peut vous faire réapparaître. Ça prend bien 15 secondes pour vous faire réapparaître.
Sans matos.
Par contre, t'es à poil. Hein. Alors après, ça va. Le matos n'est pas rare hein, dans le jeu. On trouve toujours un petit flingue qui traîne. Et même avec ça, on peut un peu s'en sortir. C'est toujours mieux d'avoir son fusil d'assaut. Et le système d'armes, ça va. Il y a pas non plus une profusion d'armes si grande que on est perdu. Mais oui, on est à Walpé. On est largué d'un avion. Il faut se rééquiper. Mais là encore, j'ai joué avec des inconnus et ça, c'était dingue. Ils m'ont fait réapparaître, c'était chouette, et le mec immédiatement m'a signalé un casque, une armure, une arme. Et j'y suis allé et j'ai récupéré un casque, une armure.
Voilà, pour dire que voilà, pour après tu as peut-être d'autres remarques.
Bonnes idées. Il y a une classe de personnage qui est capable de prédire le prochain cercle. C'est pas génial ça. S'il arrive à choper une balise topographique située un peu partout, il peut dire alors on connaît le prochain cercle, mais moi je connais le cercle d'après. Tu t'y attendais pas à cela. Du coup, tu peux immédiatement te diriger vers le cercle suivant. Il y a des personnages qui peuvent faire des ziplines. Oui, on n'a pas parlé du level design, mais il y a une carte qui est assez petite, mais c'est très vertical. Pourquoi c'est très vertical? Parce qu'on a des beaux déplacements à la Titanfall, donc on peut faire des glissades, on peut grimper au mur un petit peu, c'est-à-dire on peut se hisser au-delà des murs. Mais rejouez pas à PUBG derrière, vous allez vous d'avoir l'impression que vous traînez les fesses, c'est terrible. Là vraiment c'est très dynamique, dès qu'il y a une pente on se met à glisser, ça va vite, c'est très Titanfall moins la course sur les murs et le double saut quoi, grosso modo.
Alors à ne pas oublier quand même, parce que on est très dithyrambique à juste titre hein, ouais. le jeu est exceptionnel, il s'agit d'un free to play, donc
avec les mécaniques dégueu,
avec ces Electronic Arts à la base hein, qui ont un peu besoin d'avoir des jeux qui leur apportent des sous hein, en ce moment.
C'est Activision.
Non mais c'est reste
licencié, ils doivent bien avoir du mal.
Il vient de sortir, donc tout est beau, tout est gentil. On sait déjà qu'il va y avoir des season pass, on sait déjà qu'il va y avoir des mécaniques, des trucs. A priori
il y a déjà un Founder Pack d'ailleurs à 30€.
Ils ont promis de pas faire du pay to win, mais bon, qui en fait encore, il n'y a pas besoin. Mais
sincèrement, je pense qu'ils ont été, ils ont retenu la leçon de Battlefront 2, en tout cas, j'espère pour eux.
Il va y avoir derrière des mécaniques de free to play, des mécaniques d'incitation à jouer, à revenir tous les jours, à revenir deux fois par jour, pour avoir sa petite loot box, pour avoir ses machins XP, ces trucs. Voilà, donc on est sur une mécanique de free to play, toujours faire gaffe. J'ai envie de faire une sorte de warning perpétuel sur ce genre de mécanique.
Surtout que là, le nombre de skins d'armes est déjà hallucinant.
Voilà, il y a un aspect forcément toxique là-dessus. Ça n'empêche pas que le jeu soit bien, que le contenu de base
proposé est déjà très.
Voilà, on peut y jouer. Il faut avant de se lancer avoir conscience des mécaniques qui sont derrière et qui vont tout faire pour nous ramener tous les jours indéfiniment sur le jeu.
C'est vrai que c'est une remarque qu'on se faisait souvent avec les amis avec qui je jouais Apex, c'est que le plus grand danger d'Apex, c'est Electronic Arts lui-même.
Oui.
On verra comment ça se passe, mais c'est vrai que pour l'instant, le jeu est quand même bien parti. Il dépasse tout le monde sur Twitch en termes de vues.
C'est le truc le plus hallucinant. C'est-à-dire que sur Twitch, il y avait quand même de la compète. League of Legends a surdominé ça pendant des années. Arrive PUBG, arrive Fortnite qui met tout le monde d'accord.
Dota 2 aussi.
Et Dota 2 évidemment, mais et là le truc a battu Fortnite en deux semaines quoi.
Bah,
c'est totalement.
Il a l'attrait de la nouveauté aussi, hein, faut dire les choses. Mais les gens restent.
Il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres. Il y a eu Royal Realm, Battle Realm, machin, j'en sais pas. Il y en a eu plein d'autres. Ouais. Des petits Battle Royale qui ont eu deux jours de succès. Là, t'as une vidéo de Gotaga qui t'explique que, non mais Fortnite c'était sympa, mais quand même.
C'est... Fortnite, j'ai toujours trouvé ça un petit peu hybrido, compliqué. Ouais, mais bon. Là, il y a une pureté, en fait. Tout a été pensé. Rien n'est fait au hasard. Tout est centré autour d'un seul concept qui est le squad à trois à la première personne en Battle Royale. Et ça fonctionne. Et je pense que si les gens regardent, c'est parce que les joueurs jouent. Et si les joueurs jouent, c'est parce que le jeu est bien branlé aussi à un moment donné. Tu vois ce que je veux dire?
Voilà, donc c'est Apex Legends. Alors vous allez voir, il faut évidemment installer Origin. Hein, voilà.
Alors j'ai découvert
après,
qu'il était
l'Epic Store, le ouais, Steam. Maintenant on aura Origins.
Vivement qu'Ubisoft sort Assassin's Creed Battle Royale et qu'on ait réinstallé Uplay. Hein.
C'est ça.
Ça fera plaisir.
Ça fera plaisir.
Mais moi j'avais découvert qu'il était déjà installé, donc c'était une et peine moi, de d'épargner.
J'ai découvert que j'avais déjà un compte. Hein,
ah oui. Mais chacun ses petites découvertes finalement.
c'est le moment d'accueillir Jérémy Kletskin et sa chronique. Jeu de société. Salut Jérémy.
Salut Erwan. Alors je suis un peu de mauvaise humeur aujourd'hui, donc je me suis dit que dans la tradition des silences on joue, on chronique aussi des jeux un peu nazes, inconnus auxquels on a joué, mais qui sont moins intéressants quand même, hein, mais qu'on va pas recommander. Bon, j'avais rien en pixel art, hein, donc j'ai pris un jeu pas traduit en français. Le jeu s'appelle Neom, N-E-O-M. C'est la dernière nouveauté des Allemands de Lookout Game, et il est pile à mi-chemin entre un Seven Wonders et un SimCity. Et oui, Frankenstein était allemand. Chaque joueur va recevoir un plateau individuel de 5x5, un terrain sur lequel il va pouvoir construire sa ville. Et puis on va drafter des tuiles carrées sur lesquelles sont merveilleusement, il faut le dire, illustrés des bâtiments. Le draft, vous savez, c'est quand vous choisissez une tuile, puis vous passez votre main à votre voisin de droite, tandis que vous recevez la main de votre voisin de gauche, jusqu'à ce que les tuiles aient toutes été distribuées. Et puis pour ceux qui connaissent bien la Bavière, une fois on tourne à droite, une fois on tourne à gauche, ça va dépendre du contexte. Et là j'étais avec mes amis, hein, je feuilletais tranquillement le livre de règles. Il y a 7 pages de règles, hein, des pages de 30 cm par 30 cm avec une quarantaine de lignes, hein, mais bon, c'est pas ce qui se fait de pire. Et là, je me rends compte que les 150 tuiles sont uniques et que les 4 dernières pages, ce sont des descriptions de chacune d'entre elles. Et je vous jure, elles sont listées dans le désordre. Comme si ça pouvait faire partie du plaisir qu'on prend à jouer à un tel jeu. À la découverte de ces pages, il fallait voir mes amis autour de la table qui se sont mis à m'implorer du regard. Mais moi, j'ai pas tremblé, on a commencé, on va finir. Et donc, évidemment, il y a plein de catégories de bâtiments. Il y a des résidences, des bâtiments commerciaux, des bâtiments industriels, des bâtiments publics, des bâtiments qui vont vous donner des ressources. Comme dans Seven Wonders, une fois que vous avez un bâtiment qui produit une ressource, vous pouvez l'utiliser à volonté. Et si vous n'avez pas celle qu'il vous faut, vous pouvez l'acheter à votre voisin. Et puis, pour vous amuser, vous pouvez déclencher des désastres, des inondations, des feux, des vagues de crimes. Vos voisins qui n'ont pas pensé à placer des casernes de pompiers ou des postes de police en plein milieu de leur ville vont souffrir. Je peux pas dire qu'on a regretté d'avoir joué une fois qu'on a fini la partie, mais bon, il y a vraiment personne qui s'est battu pour en refaire une autre. Neom se joue en solo, c'est suffisamment rare pour le souligner, et jusqu'à 5 joueurs. L'auteur Paul Sotosantis est illustré par Christian Operer. Vous pouvez jouer à partir de 10 ans pour des parties d'environ 1 heure. Il est disponible en anglais à l'import, je sais qu'il y a un public pour ça. Et puis si vous désirez coincer une armoire ou rehausser un gosse, la boîte peut vous être utile. Et moi, je vous dis à bientôt pour vous parler de jeux qui sont de toutes les couleurs et de toutes les formes, comme la vie. Bye bye.
Je souhaite pas à Jérémy d'avoir des gosses.
Il en a.
Ah mince. Il réhausse vraiment ses gosses comme ça, c'est terrible.
Merci. Bye bye Jérémy. À la semaine prochaine. Et tu as le droit de faire des chroniques comme ça de jeux que tu aimes pas, qu'on n'essaiera jamais. C'est sûr. Il y a aucun risque. C'est le moment de retrouver Advance Soir. C'est ça?
Ouais.
Non,
ouais,
c'est
ça. Non, c'est ça. Tu peux dire.
Ça, on peut dire Advance Soir.
Les vrais fans diront Nintendo Wars, Famicom Wars, les vieux. Mais bon, ouais. C'est la même idée, hein.
Mais ça s'appelle Wargroove. I won't let you down. Our dominion grows. Perish. Nature will claim you. I am not here to play. Wargroove du tour par tour avec des armées qui s'affrontent sur un design. Je vais te laisser la parole hein, parce que c'est.
Oui, non, mais c'est Advance Wars. Voilà.
Ça devient voilà,
non, mais
bon.
Ça devient
à la semaine prochaine.
Ça devient Advance Wars. Oui, donc Nintendo Wars hein, 88, mine de rien, nous on connaît par Advance Wars parce que tout le monde a joué à Advance Wars. Oui. Alors que personne n'a joué à Famicom Wars parce qu'on n'est pas japonais. Mais c'est vrai que c'est vieux. Hein, ça date de 88.
Wow, c'était trop bien. C'était quoi, c'est Game Boy Advance?
30 ans.
Game Boy Advance, Advance Wars, le premier.
Advance Wars, c'était sur Game Boy Advance, Nintendo Wars, c'était sur NES, enfin c'est sur Famicom, c'est pour dire. Ah, mais apparemment, il y en a eu sur Game Boy et tout, moi j'étais pas au courant, moi franchement, il y a eu plein
de choses. Game Boy Advance, Advance Wars, c'était j'ai fait combien de temps.
Bah ouais,
combien
pareil.
De temps on passe là-dessus, quoi.
C'est... Alors moi, c'était surtout
infini.
Le 2, le DS et le Dark Conflict que j'ai fait, c'était les derniers, quoi. Et Dark Conflict, d'ailleurs, c'était le dernier, il est sorti en 2008, ça fait 10 ans qu'il n'y a pas eu d'Advance Wars, mais qu'est-ce qui vous prend, Nintendo, vous êtes fous. Quoi qu'il en soit, Wargrove en a eu.
En même temps, il y a les. Ouais. Les Fire Emblem, enfin c'est un peu non c'est pas pareil, mais bon il y a un peu de ça, quoi.
Ouais non, mais il y a du Advance Wars dans Fire Emblem, on est d'accord, mais après c'est vrai que dans Fire Emblem on va être dans l'économie d'unité à surtout pas faire en sorte qu'elle ne meure pas.
Oui, c'est vrai.
Quand t'as fait beaucoup de Fire Emblem là ces derniers temps, enfin ces dernières années comme moi, et que tu rejoues Advance Wars ou perds une unité, c'est pas grave, et que en fait tu t'en veux à mort, c'est compliqué. Alors qu'en vrai tu les envoies au casse-pied, mais c'est pas grave. Mais bref, non mais c'est vrai. C'est moi j'ai du mal, mon petit cœur il a du mal à laisser mourir des unités maintenant.
Je comprends.
Un peu compliqué. Donc Wargrove, ouais, Chucklefish, hein, c'est un studio anglais. Alors on va dire un gros indé. Hein, on va pas les comparer à Devolver, mais disons qu'ils sont plus dans une démarche classique. Certains diront que d'ailleurs Wargrove est un triple I. C'est un gros indépendant.
Je sais pas.
Ouais, non, mais c'est j'aime bien c'est un triple
I.
Et Chucklefish, on les connaît parce qu'ils ont fait Starbound avant ça, hein, vous savez, le Terraria dans l'espace. Mais avant ça, ils avaient édité aussi Stardew Valley, hein, bon pic, j'ai envie de te dire. mais aussi Pocket Rumble, Risk of Rain, des jeux vraiment qui ont leur petit succès.
D'ailleurs, à propos de Stardew Valley, il faut qu'on parle de My Time at Portia.
C'est quoi, c'est le mode multi?
Non, c'est un Stardew Valley plus qui est sorti en 3D et tout. C'est hyper cool. J'ai commencé à y jouer, c'est trop bien.
Bah mais ok, ouais, faudrait le mettre dans le programme. Je vais jeter un œil.
Bref, à part c'est fini.
Du coup, donc Starbound, Chucklefish avait annoncé Wargrove depuis un long moment. Il faisait bien baver avec Tiny Metal, d'ailleurs un autre concurrent, un autre prétendant comme successeur à Advance Wars, mais lui, sauf que c'était pas bien. Et Chucklefish, donc ça fait un moment qu'il voulait le sortir, et là ils l'ont annoncé il n'y a pas longtemps, il est sorti sur PS4 Switch, pardon, sur PC Switch Xbox One et pas PS4, lol, il sort bientôt sur PS4. Donc oui, bah, c'est Advance Wars, hein, je crois qu'on l'a dit, mais sauf que là, c'est plus des militaires, c'est des militaires, mais c'est plus le monde, c'est plus la guerre moderne, oui. C'est la guerre ancienne, c'est de l'heroic fantasy, donc avec des chevaliers, des soldats, des chiens, beaucoup de chiens, il y a énormément de chiens dans le jeu, mais des dragons aussi, ou des harpies, des espèces de monstres aquatiques.
C'est peut-être le croisement Advance Wars Heroes of Might and Magic.
Oui, on peut voir les choses comme ça, mais en tout cas, sur les mécaniques, par contre, on est vraiment sur du Advance Wars, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'équivalent, c'est-à-dire que quand on joue à Wargrove, on fait « Ah ouais, c'est l'hélicoptère, ah ouais, c'est le bombardier, ah ouais, j'ai reconnu, c'est le lance-missile, trop bien. » Sauf que, assez rapidement, on se rend compte quand même des petites subtilités par rapport à la formule d'Advance Wars qu'il y a. Au-delà de l'histoire, évidemment, qui est classique, bon, l'histoire.
Oh là là, il y a le royaume voisin, il est très très méchant et il veut attaquer le royaume des gentils, trop nul. Du coup, le royaume des gentils va chercher des alliés qui au début sont méchants, mais on arrive à les convaincre qu'en fait on est gentils, du coup ils deviennent gentils aussi.
Voilà, c'était l'histoire de...
ouais, non,
Je crois qu'il y a une histoire aussi de vieil artefact qui va sûrement mettre tout le monde d'accord à la fin, on verra ce qui se passe.
Ça m'a l'air assez inédit.
L'artefact n'a jamais été vu.
C'est un peu mind-blowing.
Pas du tout un lieu commun. J'irai voir sur TV Trop. Au pire, je créerai l'affiche s'il faut, mais on fera quelque chose. En tout cas, on est sur une notion aussi de général qui a un pouvoir spécifique qui va l'utiliser pour donner un avantage stratégique à ses troupes. On a l'héroïne principale qui est une princesse qui peut soigner dans une zone autour d'elle.
Grosso modo, ils ont suivi une recette, mais ils l'ont bien effectuée.
Alors, ils l'ont bien refaite. C'est très sage. Il y a quand même pas mal de différences. Donc, par exemple, le fait que le général soit sur le terrain, ça n'existait pas avant. Dans Dark Conflict, j'avais un doute, mais en fait, non. On pouvait mettre son général dans une unité, et si l'unité mourait, le général entrait à la maison et on pouvait le remettre dans une autre unité. Là, le général est sur place, et si le général meurt, tu as perdu. Donc c'est quelque chose d'important, il faut faire attention à ce général, parce qu'on a très envie de le sortir, le général, on a très envie de l'envoyer au fond, parce que le général il est pété, le général il se soigne tout seul à chaque tour, le général il fait des gros dégâts, il prend assez peu de dégâts, et en plus il a son pouvoir, donc c'est tout bénef le général. Sauf que il suffit que trois unités qui font un peu mal se liguent contre elle, pour que ça fasse très mal au général et que tu perdes en un tour. D'ailleurs tiens, puisqu'on parle de perdre en un tour, il n'y a pas de sauvegarde dans ce jeu, c'est-à-dire que ta partie d'une heure, si tu te fais bourrer par un dragon à la con au bout d'une heure vingt de jeu et que ça s'est passé en un quart de seconde sur le tour de l'adversaire parce que t'as pas vu un truc.
C'est marrant, j'ai déjà eu cette remarque dans un Silence on joue sur un Fire Emblem.
Je crois que tu peux sauvegarder quand même dans Fire Emblem.
Non, mais je sais que c'est ou alors c'est un sentiment de déjà vu et là j'ai l'air con, mais c'est j'ai l'impression d'avoir déjà entendu cette remarque sur un jeu de tactical comme ça.
Ça m'étonne pas. Mais ça peut être ultra frustrant. Clairement.
Et
je dis pas que c'est mal parce qu'il me semble dans Advance Wars c'était pareil, tu vois. Mais Advance Wars c'était il y a 10 ans, quoi, donc peut-être qu'on aurait pu trouver d'autres façons de faire. Il y a aussi, tu vois, dans Advance Wars c'était genre bêtant le fait que une fois que t'as dit à ton unité d'attendre, et des fois c'est vite fait de faire un misclic, elle attend et tu peux pas annuler ton coup. Et quand il y a pas de brouillard de guerre, il y a aucune raison de pas pouvoir annuler son coup. Quand il y a du brouillard de guerre, je dis pas, parce que quand il y a du brouillard de guerre, tu passes par des cases, donc ta visibilité augmente, donc t'as de la nouvelle information qui est acquise. Mais quand t'as pas de brouillard de guerre, des fois tu fais une bêtise. Et tu dis, ah non, je voulais pas faire ça. Tant que t'as pas attaqué, tu devrais pouvoir annuler une action. Ça, c'est quelque chose qu'ils auraient pu mettre. C'est dommage. Mais bon, ils ont quand même des bonnes idées qu'ils ont rajoutées par rapport à la formule d'Advance Wars classique. Donc, il y a le général sur le terrain, comme je l'ai dit. Il y a les coups critiques. Alors, les coups critiques, c'est super malin. Pour moi, c'est vraiment l'idée la plus originale du jeu. Donc, en fait, chaque unité a son attaque classique, mais elle a aussi son coup critique. Il n'y a pas de chance dans ce jeu. Tout est calculé à l'avance. Tu peux savoir tout ce qui va se passer.
Ça me stresse. Ces jeux où tu sais, où il n'y a pas de chance. Ça me stresse.
Zéro chance.
C'est quoi le tactical en 8x8, là?
Oui, bien sûr. Into the Breach.
Il m'a stressé.
Mais là, tu peux calculer tout ce que tu peux faire. Donc, et chaque unité a des conditions de coup critique. Si tu les réunis, tu auras un coup critique. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
Donc, par exemple, tu as les unités défensives qui sont les piquets. Donc, eux, ils se déplacent très lentement. Par contre, tout le monde vient s'empaler sur eux. Tu vois ce que je veux dire?
Oui.
Si un piquet est à côté d'un autre piquet, coup critique. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
C'est vraiment faire des rangées de défense.
Faut pas
attaquer un lancier quand il est à côté d'un autre lancier, voire faut les attaquer à distance. Un archer, il peut se déplacer et tirer contrairement au mortier à l'époque d'Advance Wars, mais s'il reste sur place, coup critique. Tu vois ce que je veux dire? C'est malin, ça. Les soldats, bon, c'est un soldat, tu vois, il bouge pas, mais s'il est à côté de son général, coup critique. Un chien, c'est cool, ça va vite et ça attaque, et puis c'est un peu l'équivalent des éclaireurs, des scooters, enfin des petits véhicules, là, les jeeps qu'on avait dans Advance Wars. S'il attaque un ennemi qui est à côté d'un autre chien, c'est-à-dire si t'as deux chiens autour d'une même cible, coup critique. Et t'as que des trucs comme ça. Et ou les chevaliers, je les adore, ils se déplacent très vite et ils vont attaquer fort. S'ils font leur max de déplacement et qu'ils attaquent du bout du déplacement, coup critique. C'est que des trucs comme ça, c'est vraiment bien pensé. Du coup, tu peux vraiment placer tes unités en fonction. Ouais. Moi, il y avait une mission, par exemple, où je devais protéger un village qui était assailli par des vagues d'ennemis. Et je faisais peur à des mecs parce que je mettais juste deux piquets à l'entrée de la ville. Et je fais, tu ne passes pas. Tu viens, tu perds ton unité. Et l'ordinateur a eu peur. J'ai fait de l'intimidation comme ça. J'ai mis une grosse arbalète derrière, et puis j'ai fait une grosse une catapulte derrière, et mes deux piquets, et ça les a vraiment dissuadés.
Tu viens de dire l'ordinateur a eu peur.
L'ordinateur a eu peur. Mais c'était super.
Je note que tu viens de dire cette phrase.
C'est le début. La révolte des machines, ça commence. Elles ont peur, puis après elles se révoltent. Mais voilà, il y a vraiment des stratégies à mettre en place qui sont vraiment cool par ce système. Mais, voilà, le problème de Wargroove vient pas de son cœur de gameplay qui est du Advance Wars. Donc c'est vraiment quelque chose qui est cool, connu, qui marche bien, qui est sympa, surtout en portable. Moi j'y joue sur Switch, c'est vraiment chouette. Mais c'est plutôt sur la façon dont le jeu est construit pour t'inciter à jouer. C'est-à-dire que le jeu fait des trop grosses missions trop vite.
Ouais.
Et c'est vrai que ça peut être frustrant, ou en tout cas ça peut être intimidant assez rapidement. C'est vrai que quand on regarde les premiers Advance Wars, c'est des cartes minuscules, mais vraiment minuscules, où on t'apprend t'as un pont, et puis t'as les tanks à la queue leu-leu, puis on donne un tank de plus, ce qui fait que tu vas gagner. Tu vois, c'est vraiment des petites missions comme ça qui t'apprennent le jeu, on t'apprend les unités vraiment une par une. Et là, dans Wargroove, on te file déjà des cartes vraiment très grandes, vraiment très longues. Genre, j'ai pas l'impression d'avoir vraiment énormément avancé dans la campagne, mais j'ai déjà des missions qui se terminent tour 28 et j'ai un rang S, donc je les ai finis rapidement. C'est des gros morceaux à avaler d'un coup. Ouais. C'est vraiment des trop grosses bouchées.
Peut-être un problème de courbe d'apprentissage, en fait.
Ouais, une courbe d'apprentissage, courbe de contenu, trop de choses trop vite. Et surtout, t'es obligé d'y passer, quoi. T'es obligé de, parce qu'au début, donc t'as un mode campagne qui est donc le mode histoire classique traditionnel du jeu. Tu débloques en jouant en mode campagne petit à petit. Tu débloques le mode arcade. C'est des pour chaque personnage que tu vas jouer, en fait, t'as une série de combats qu'il faut remporter à la suite sans s'arrêter, un peu comme dans un jeu de combat classique. Ouais. Et puis au bout d'un moment, tu débloques aussi le mode énigme ou problème, je sais plus, enfin bref. Et ça, j'adore ce mode. Ça, c'est super parce que c'est justement le seul moment où tu peux avoir du Wargroove en petite bouchée. c'est voilà. Ouais, c'est ça, vous le savez. On te file un problème d'échec, ouais. Tu dois le terminer en un tour.
Ouais, c'est ça.
Ça j'adore. Ça c'est trop bien. C'est bien. Ça c'est trop chouette, mais ça arrive au bout de 6 heures, c'est beaucoup. Ouais, ouais. Je vais rapidement finir en disant que pour les fans de ce genre de jeu, le contenu est très grand. Alors pas forcément parce que le jeu en lui-même propose du contenu, mais parce qu'il a un éditeur de niveau très 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 complet. Pourquoi Erwan ? Parce que non seulement tu peux faire tes cartes, mais tu peux faire tes campagnes, tu peux faire tes cutscenes, et dans les maps, tu peux même créer des événements. C'est-à-dire, si un personnage de cette équipe passe par cette case, tu déclenches ce dialogue et tu fais apparaître telles unités. Tu vois, c'est vraiment très, 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 très poussé. Et c'est pour ça que je te parlais tout à l'heure de Triple I. C'est pas un petit groupe de 3 personnes qui aurait pu sortir un tel éditeur de niveau et un tel éditeur de contenu. Et en plus, très facile à partager en ligne. Il y a déjà plein de niveaux qui ont été créés par plein de gens. Il y a les gens, évidemment, qui ont recréé toutes les maps d'Advance Wars du monde, donc vous pouvez toutes les refaire si ça vous chante. Il y a des campagnes à la con très drôles qui sont sorties. Il manque plus qu'un éditeur de sprite en fait pour créer ses propres personnages et voire même pouvoir créer ses propres pouvoirs, mais là ça va devenir un peu compliqué. Mais en tout cas il y a vraiment à manger, hein. C'est un jeu très généreux et peut-être même qui pêche par sa générosité dans son contenu solo et dans la courbe d'apprentissage du début. C'est un peu dommage, mais en tout cas ça vaut le coup si vous aimez le genre. Ça coûte 17€, ça sort sur PC, Switch et Xbox One, la version PS4 arrive bientôt.
Cool. Eh ben, ça fait envie tout ça.
Ouais.
Eh ben, c'est fini. On a fait quand même long. Ouais, on va faire court. On va enlever 2 jeux au programme. C'est bon. On est.
C'est à cause d'Activision.
Imagine ça avec 2 jeux en plus, mais on est. Fou.
C'est à cause d'Activision.
C'est ça. C'est à cause d'Activision. Le camp du mal. Voilà. Eh ben, c'est fini avec cette semaine pour les jeux vidéo. Merci Corentin.
Merci Erwan de m'accueillir.
C'est cool.
On est bien là. On prend une heure. T'es reparti pour une heure.
Merci Solène. Oui. À la Réal. Nous, la question rituelle à laquelle tu ne vas pas échapper, et quand tu ne joues pas, tu fais quoi, Corentin ?
J'en ai déjà plus ou moins abordé la dernière fois, mais j'avais vu Fire, le festival qui n'a jamais eu lieu. Alors, j'ai oublié le nom exact en anglais. C'est sur Netflix. Et alors, c'est une drôle d'histoire. Donc, Fire Festival, ça dit quelque chose, Erwan ?
Depuis qu'on en parle avec les documentaires, oui, mais avant, non.
Mais c'est vrai qu'en 2017, c'était un petit truc qui s'était passé sur Twitter et on comprenait pas très bien, nous, vu de France, ce qui se passait. Puis très rapidement, on a compris que c'était assez drôle quand même. Parce que c'est des enfants, des gosses de riches qui, qui se retrouvaient, échoués sur une île déserte quasiment. Donc, Fire Festival, c'est un festival musical de luxe qui aurait dû se dérouler sur des îles dans les Bahamas, organisé par Billy McFarland, un investisseur, un entrepreneur dans les nouvelles entreprises venture capitaliste et compagnie, qui avait déjà eu un succès dans une carte de crédit de luxe, machin, qui donnait accès à des concerts, ce genre de choses, et qui s'était associé avec Ja Rule, donc le Ja Rule de l'artiste musical de rap américain, pour promouvoir une application qui s'appelait Fire, pour booker des artistes pour tes événements quand t'as beaucoup d'argent, tu vois ce que je veux dire. Et donc, pour promouvoir cette app, ils avaient décidé d'organiser un festival de musique sur les îles des Bahamas, avec des tickets allant de 500 à 12 000 $. Sauf que ce truc a été très... Enfin, n'a pas été organisé du tout, en fait.
D'accord.
C'était une catastrophe. Ils ont promis des villas au monde entier, grosso modo. Et à la fin, ils se sont retrouvés avec des vieilles tentes d'abri pour les catastrophes humanitaires qu'on met là en cas de tempête ou quoi, avec des matelas. Il a plu la veille, ça a pris l'eau. Il y avait pas à manger, pas à boire. Ils avaient rien prévu. C'était une catastrophe. Tout le monde dans l'équipe, il y a plein de monde dans l'équipe. Ils disaient, on court à la catastrophe. Billy McFarland n'a pas prévenu. Donc, ce documentaire raconte tout ça. Et rapidement, il faut expliquer aussi le contexte, c'est qu'il y a un autre documentaire sur Hulu qui est sorti sur exactement la même chose. Et apparemment, récemment, il semblerait que l'équipe de communication, l'agence de communication qui s'appelle Jerry Media, qui a co-organisé l'événement et qui a tout rejeté la faute sur Billy McFarland, qui est aujourd'hui en prison, aurait en fait poussé la production, ou en tout cas aurait bien mis les mains dans le cambouis pour ce documentaire, pour repousser la faute justement bien sur Jimmy McFarland,
sur le documentaire Netflix,
alors que le Hulu dit mais ouais. non, parce que Jerry Media, ils sont bien responsables aussi. D'accord. Du coup, il y a ce petit conflit entre les deux documentaires, que c'est très intéressant. Malheureusement, en France, on a accès qu'au Netflix. Donc, vivement que quelqu'un récupère les droits sur le Hulu, qu'on puisse le voir, peut-être Amazon en Europe ou je ne sais quoi. Ça serait intéressant de voir ça. En tout cas, si vous êtes curieux, ça raconte bien quand même l'histoire et le déroulé des événements. C'est sur Netflix. Ça s'appelle Fire, The Festival That Never Happened, je crois. En tout cas, The Best Festival That Never Happened, je crois.
Pour ma part, en fait, j'ai juste envie de conseiller quelques personnes à suivre, quelques gens à aller voir pour ceux que vous ne connaissez pas. Pour la plupart, ce sont des femmes qui ont eu le courage ces derniers temps de dénoncer des agissements. Ce sont des femmes qui ont eu le courage de dénoncer. Alors, c'est l'affaire de la Ligue du LOL et surtout. Et je voulais dire que voilà, c'est des femmes qui aujourd'hui, on voit, on réussit à s'en sortir, on réussit à faire des choses qui sont assez extraordinaires. Et malgré ça, c'est-à-dire que malgré qu'il y ait eu des gens qui essayaient de leur couper les pattes, de leur donner des tapes sur la tête, de les empêcher d'avancer, de les empêcher d'aller, et elles sont arrivées. Enfin, on peut pas s'empêcher de se dire, si elles avaient pas eu ça, où elles en seraient, quoi. Enfin, elles sont déjà hyper haut. Alors voilà, j'ai en cité quelques-unes, je cite pas tous, mais voilà, les vidéos de Florence Porcel sur YouTube, le blog de Daria Marx, les articles, les podcasts de Iris Cavé, Aïcha Kotman, évidemment, les podcasts de Mélanie Vanga, qu'on peut retrouver sur Binge, dans Le Chip ou dans Quad Meuf sur Nouvelles Écoutes, les articles de Lucie Bélan et Thomas Messia sur Slate, évidemment, même si, enfin, il y a tellement de monde dans ces victimes, mais voilà, c'est juste, vous pouvez retrouver les noms. Malgré ce qu'elles ont vécu, elles arrivent à faire ce genre de choses. Il faut aujourd'hui, maintenant qu'on sait ce qu'elles ont vécu, il faut aujourd'hui amener beaucoup plus de monde à suivre ce qu'elles font, parce que c'est assez extraordinaire. Et voilà. Et bravo à elles. Et puis surtout bravo pour ce qu'elles font aussi aujourd'hui. Et c'est hyper cool. En tout cas, allez voir ça. C'est plein de choses à découvrir, plein de nouveaux horizons si vous ne les connaissez pas. Il y a vraiment un travail extraordinaire. Voilà. Bah, c'est fini pour cette semaine et nous on se retrouve la semaine prochaine sur binge.audio, sur libération.fr et sur les internets. Ciao.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.